te bave des chevaux rares, au ras des rocs qui se consument, au lange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient, fille verte des fjords, revient violon des violonnades, dans le port fanfare les corps, pour le retour des camarades, au parfum rare des salants, dans le poivre feu des gerçures, quand j'allais géométrisant mon âme, au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul. Poissé dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sunlights cassés, liquides jouent de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide. Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce compressant, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale, d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles.
Yeah. Amsterdam 94, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence, c'est-à-dire qui reprend, mais ça aurait été une private joke. Et vous venez d'entendre Litovsk, parce que comme d'habitude, José a le nez creux pour trouver des groupes qui répondent en quelque sorte de manière symbolique à notre thème de l'émission. Car comme chacun sait, un symbole, c'était deux petits boucons cassés qu'on réunissait. Et là, il y a Litovsk, parce qu'on va parler de Brest, d'accord ? Mais pas de Trotsky. Et donc, il faut que je vous dise un petit peu pourquoi on va parler de ça, parce que ça a quand même ça a une histoire, tout ça, évidemment. Pourquoi parle-t-on de Brest ? Parce que ça fait des années que Jean-Mathias essaie de nous imposer des émissions qu'on n'a pas du tout envie de faire. Donc régulièrement, on le cancel. Voilà, on va dire non, Jean-Mathias, t'as pas le droit de faire ça. Et on l'empêche. On l'empêche de parler. Et donc, vous ne savez pas à quoi vous avez échappé. Mais sinon, là, à cause de Jean-Mathias, on serait un truc qui serait, je ne sais pas moi, entre Téléfoot et le Zénith. Mais, et donc, ce serait vraiment l'enfer. Mais de temps en temps, on est bien obligé de le laisser parler de ce qu'il souhaite. Voilà. Et donc ce soir, on a cédé. Alors il y a eu de longues négociations, tout ça. Et donc ce soir, il va nous parler. On sait toujours pas pourquoi, ni pourquoi ce livre a tant d'intérêt pour lui. C'est peut-être quelque chose d'atavique. Et donc il va nous parler d'un livre qui s'intitule Brest et qui a été fait par le collectif Auton. Donc on est dans on est dans une perspective océanique.
Auton remporte la marée.
Voilà. Et donc je pense qu'on va faire au moins 50 blagues là-dessus. Et donc, je pense que c'est le côté collectif, c'est un livre bleu, ça aussi, c'est océanique. Et donc, c'est un livre qui a été écrit par 10 personnes. Je ne vous dirai pas forcément lesquelles, parce que dans l'eau, il y en a quelques-unes que je déteste.
Bigoudou.
Et donc, c'est plein de petits textes qui ont été écrits par des gens, peut-être des Parisiens, qui sont allés se balader à Brest et qui sont restés chacun une semaine, sans doute pour saisir la substantifique moelle de cette ville bretonne. D'accord. Et donc ils se sont baladés. Donc après ça, ils ont écrit des petits textes qui nous décrivent Brest. Alors donc je vous ai présenté un petit peu le livre. C'est aux éditions Divergence. Et on va voir ce que Jean-Mathias a à en dire parce qu'on va sans doute se moquer de lui beaucoup.
Voilà. Bon bah j'y vais. Du coup je me jette à l'eau. Voilà. Alors, ce livre du collectif Auton Brest, édition Divergence, qu'on salue au passage.
Salut.
Édition Divergence, voilà, récemment installé dans la belle ville de Quimperlé, pas très très loin de Brest. Et ce livre, il est tout à fait digne d'intérêt. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui est un peu. Qui est assez original dans sa forme, parce que c'est un ouvrage collectif. Et comme tu le dis, en fait, alors c'est pas le premier que de ce collectif dans lequel se trouvent diverses personnes, comme tu l'as indiqué, les différents talents, n'est-ce pas ? Et c'est pas le premier, en fait, si c'est la troisième fois que ce collectif se pose comme ça dans une ville. Hein, ils ont fait un livre aussi sur Arles, et un autre sur Valenciennes. Donc là, c'est Brest. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir une espèce d'approche un peu, un peu en kaléidoscope, je dirais, de la ville. Dans laquelle ils se posent. Alors ils sont pas ni natifs ni habitants. Et ça donne un objet comme moi qui m'a beaucoup plu. Il se trouve que effectivement, comme tu le sous-entendais, je connais un peu cette ville que j'aime beaucoup. Et c'est un livre qui rend justice à cette ville, me semble-t-il, dans lequel j'ai appris aussi beaucoup de choses. Et en fait, ça ressemble effectivement pas à des livres qu'on a trop l'habitude de voir. Alors sur l'aspect collectif de l'écriture, sur la diversité aussi des approches et puis des thèmes qui sont posés. Alors il y a des on apprend des tas de choses sur l'histoire de Brest, sur sa population aussi, sur son avenir, sur un certain nombre de questions ou d'expériences, je dirais, qui sont propres à cette ville aujourd'hui également. Il y a question de la condition des migrants à Brest. Il y a question aussi de la rénovation urbaine. Il y a question des paysages. Il y a question des quartiers dans lesquels des gens se mobilisent. Il y a question aussi du sort de la vieillesse ou des personnes âgées à Brest. Et tout ça mis effectivement de certains faits divers aussi qui sont discutés et qui sont rapportés alors d'un point de vue à chaque fois très personnel et subjectif puisque c'est pas des habitants, c'est pas des spécialistes, mais ça donne une espèce de patchwork que j'ai trouvé moi très agréable à lire. Alors, quand on connaît la ville, d'autant plus. Quand on la connaît pas, bah, ça permet de la découvrir et ça donne envie d'y aller. Et je trouve que
l'office du tourisme breton a pris la radio.
Là, j'ai une heure, je vais pas vous rater quoi. Je vais pas vous rater. Et donc, mais le livre en particulier, alors ça m'a fait penser moi à des travaux qui avaient été faits plutôt dans le cadre de revues en fait précédemment. Bon, je pense notamment la revue Z, qui est une vieille revue et belle revue, et qui a un fonctionnement assez comparable en fait à ce qui a été fait là, sachant que bon, les équipes de Z en général s'installent elles de manière durable effectivement, mais c'est le même projet en fait éditorial, et en fait c'est la même ambition, rendre compte en fait des luttes des gens ou des habitants, l'histoire en fait d'un lieu, voilà, en prenant le temps en fait de s'y poser un petit peu. Et puis c'est un livre aussi qui dans sa tonalité m'a rappelé aussi des travaux qui sont un petit peu délaissés maintenant, je trouve, y compris dans l'univers des revues, sur en fait un phénomène auquel on est confronté massivement et auquel Brest n'échappe pas, même si c'est un peu loin, hein. C'est tous les phénomènes liés au phénomène de gentrification. Et donc en fait la déperdition de ce que des cultures populaires, des centres urbains, et bon, je pense par exemple au travail qui avait été fait par la revue Agone, hein, il y a quelques années sur ces questions-là. Bon, il se trouve d'ailleurs que en fait ce numéro avait donné lieu à une présentation, voilà, très 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 suivie à Brest, à laquelle j'étais effectivement, avec des présentations de films là-dessus, qui n'étaient pas consacrées directement à Brest là, mais c'est un type de travail, un type d'approche qui m'a beaucoup plu moi, parce que ça mêle différents angles et ça donne comme ça voilà une compréhension de la ville qui est assez chouette. Et de fait, c'est pas des projets qui sont très courants finalement. Et donc voilà, donc j'ai tenu effectivement depuis de longues semaines à présenter ce livre, voilà, publié aux excellentes éditions Divergentes. Donc voilà, je me suis permis d'insister. Voilà, exactement. Alors je sais pas après trop comment procéder pour vous présenter ça.
Tu te débrouilles. Que... Hein.
c'est toi, t'as choisi le livre. Tu peux nous présenter la démarche des auteurs, comment?
Alors, les auteurs, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, ils partent en fait de pratiques littéraires et puis d'écritures qui sont différentes, parce que il y a des gens qui ont visiblement des compétences en urbanisme, des gens qui ont des compétences en histoire, il y a des gens qui ont des compétences plutôt romanesques ou fictionnelles.
Donc, c'est une espèce de livre choral où t'as les
quelque chose comme ça.
Donc c'est pas une série d'articles écrits par les gens, c'est plutôt des espèces de ces deux trois pages qui s'enchaînent, on ne sait pas forcément qui les a écrites.
Exactement.
Et puis ça va, on va varier selon les points de vue.
Exactement. D'accord. Et à chaque fois en fait on choisit voilà un sujet, un angle, un lieu, voilà une question relative à la vie. Alors bon bah je peux voilà donner un peu plus de détails, hein. Voilà, il y a un chapitre voilà sur l'histoire par exemple de l'expression du tonnerre de Brest par exemple, le fameux tonnerre. Donc le tonnerre qui est un canon, et alors où on nous présente les différentes interprétations historiques concurrentes d'ailleurs sur en fait, l'histoire de cette...
C'est pas le capitaine Haddock ?
Ah non, bah là, le capitaine Haddock, évidemment, c'est l'entrée, hein, puisque c'est l'universalité, en fait, de Brest. Hein. Mais en fait, voilà, il y a des querelles, effectivement, entre historiens, sur la question de ça, quelle est l'origine de ça ? Alors, il y a d'abord, effectivement, la première hypothèse, c'est en fait, c'est un coup de foudre, en fait, hein, une foudre qui serait tombée. Il y a le canon, en fait, qui annonçait aussi les fuites des bagnards, puisque Brest a été une ville longtemps pénitentiaire, en plus d'être un arsenal, oui, bien sûr, qui a accueilli des milliers de communards, notamment, déportés, pas seulement.
Mais ils étaient sur le chemin de la déportation ou ils étaient emprisonnés à Brest ?
Ils ont été emprisonnés longuement.
D'accord.
Ah, ça y est.
Ah, tu dis,
voilà. On y est. Tonnerre de Brest, c'est aussi une revue de mutins de la Marine nationale, un fanzine, pourrait-on dire, militant, qui reprenait les revendications en fait des insoumis militaires de l'arsenal. Donc il y a tout comme ça une espèce de parcours. On a un beau paragraphe aussi sur un artiste brestois, bon qui est très connu, hein, qui s'appelle Paul Bloas, et qui en fait lui est spécialiste en fait qui peint des géants en fait sur les murs de la ville. Et dans la et dans les anciennes prisons aussi brestoises. Bon alors maintenant il y a une renommée assez internationale parce qu'il a une espèce de Banksy local, on pourrait dire. Voilà. Donc voilà, on est dans son atelier. Effectivement, il explique sa démarche. On a une espèce de filature aussi intéressante d'un réfugié. D'un réfugié qui est filé donc par un des auteurs du collectif et qui suit cette personne dans ses démarches, dans son parcours dans la ville et qui fait toutes ces hypothèses en fait et qu'ainsi justement cette espèce de cloisonnement là en fait de d'étanchéité entre justement la vie concrète et l'expérience concrète de tout un tas de gens qui vont chercher papier, prennent le vélo et toutes les hypothèses qu'on peut faire sur son parcours. Donc il essaie de le suivre comme ça pendant une heure et demie dans la ville pour s'apercevoir qu'en fait oui il y a une cohérence au parcours même si ça part un peu erratique et c'est pas une cohérence de deal ou c'est pas une cohérence de fuite de la police, non, c'est une cohérence de dépôt de papier administratif, ponctué d'un certain nombre d'étapes. Donc on a cette filature-là. On a un texte d'assez mauvaise foi, je trouve d'ailleurs, sur un des lieux, effectivement, qui a été reconstruit récemment à Brest, sur un ancien espace de l'Arsenal, qui a été réhabilité. Alors, d'abord avec une médiathèque qui est absolument somptueuse, voilà, je me permets de le dire, mais aussi évidemment, comme dans tous les lieux de réhabilitation post-industrielle, une espèce de tiers-lieu, alors qui pourrait effectivement avoir une dimension un peu bobo, consumériste, commerciale.
Déjà, tiers-lieu, c'est mauvais signe.
Ce qui est beaucoup moins le cas que ce qui est dit dans le chapitre en question. Et voilà, donc on a des espèces de coups de sonde comme ça. Aussi, il y a un entretien avec des anciens syndicalistes de l'Arsenal sur le parler de l'Arsenal avec des expressions et des idiomes qui sont propres en fait à cette culture ouvrière brestoise. Des témoignages de mamans aussi suite aux mobilisations préfectorales pour essayer de réduire au silence les collectifs et squats autour de la place Guérin qui est un des quartiers historiques de Brest, un des rares endroits de Brest qui n'a pas été bombardé au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est évidemment c'est pas un détail cette affaire là puisqu'on a une ville qui a été intégralement rasée par nos amis anglo-saxons en 1944. Il se trouve qu'il y avait une base de sous-marins allemandes absolument colossale aussi, dont il reste encore un certain nombre de sites aujourd'hui. Mais la ville a été entièrement rasée et on a eu une ville... Alors, pas parler de bidonville mais c'était une ville en fait de cabanes de bois pendant des années, le temps qu'a duré la reconstruction en fait de la ville, qui a été reconstruite sur des plans très béton, très moderniste et très et qui donne effectivement c'est pas la seule évidemment, mais Brest a été particulièrement concerné par ça et donc on a effectivement aussi un historique de l'urbanisme de Brest. Tout un tas de réflexions intéressantes aussi sur la question des paysages. On a un port qui, pour le coup, lui est. Ah, on a une réaction d'auditeur qui n'est pas. Ça y est. Alors, une particularité aussi de cette ville de Brest, c'est que c'est un port militaire, mais c'est un port qui, en fait, barre toute forme d'accès à la mer directe. C'est-à-dire qu'à la reconstruction, le port militaire a, en fait, privatisé, finalement, l'accès à la mer depuis le centre-ville. Alors, il faut, en fait, aller très loin, en fait, du centre pour accéder à un paysage maritime et à de l'eau de mer salée. Et il y a, voilà, aussi un chapitre là-dessus. On a un chapitre aussi d'un certain Vincent qui enquête à la suite d'un fait divers qui a fait beaucoup parler puisque il y avait des soupçons qui pesaient sur une incivilité d'un jeune issu de l'immigration probablement d'obédience musulmane qui aurait renversé un retraité du quartier. Bon, il se trouve que finalement ça a pas été il a été innocenté, mais il y a eu une campagne de presse et en fait le dénommé Vincent essaie justement de remonter comme ça en essayant de collecter des témoignages d'habitants du quartier pour essayer de tirer les choses un peu au clair et puis une réflexion aussi sur la perception qui peut être celle de ce type de faits divers selon les valeurs ou les convictions politiques qu'on peut avoir. Voilà, donc il y a des réflexions là-dessus. Donc en définitive, ça donne des exercices littéraires aussi. On a tentative d'épuisement de la place Guérin un peu à la Oulipo, à la mode Oulipo, là, avec quelqu'un qui se pose sur cette fameuse place dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu le centre, un peu, qui a longtemps été le centre névralgique militant et anard à Brest, autour d'une librairie notamment, voilà, qui était tenue par un certain Bernard Poignon à l'époque, donc, qui est maintenant a pris sa retraite. Mais tentative de fait préfectorale méthodique, hein, pour essayer d'étouffer en fait un peu l'âme de ce lieu et puis toutes les mobilisations, hein, qui avaient pu en fait se faire autour de ça. Donc on a une maman qui raconte ça, qui raconte comment elle s'est retrouvée au milieu effectivement de déploiements de CRS complètement colossaux avec sa fille qui s'en est pas tout à fait remise d'ailleurs jusqu'à présent. Les systèmes de vidéosurveillance qui ont été déployés derrière. Donc on a comme ça une espèce d'entrée un peu sensible et puis incarnée sur différentes couches en fait de cette ville-là. Une enquête aussi sur la condition en fait des personnes âgées, puisque on a une des autrices visiblement qui dont une collègue avait annoncé partir prendre sa retraite à Brest parce que c'était une ville qui était accueillante, etc. Donc elle essaie de remonter le fil parce qu'elle l'a perdu un petit peu de vue, puis du coup elle va essayer de se renseigner sur l'affichage qui est fait par la ville et par l'agglomération sur ces questions-là, et puis le décalage qu'il y a entre cet affichage-là et puis les témoignages qu'elle va avoir. Elle va dans un café, elle demande effectivement aux gens qui sont là, retraités, veufs, dont l'un est en EHPAD, bah, concrètement comment ça se passe, quel est le décalage entre les annonces municipales et administrative, et puis la réalité en fait vécue par ces habitants-là, le manque de moyens, le manque d'investissement malgré les déclarations main sur le cœur du maire socialiste actuel, Cuyandre en l'occurrence. Pour donner une idée un petit peu d'ensemble, de la multiplicité des thèmes, des approches, des couches, et puis du type d'expérience ou de témoignage qui est restitué dans ce collectif-là. Donc au final, oui, ça donne un livre qui est très agréable à lire, je trouve, assez juste. Alors pas toujours, il y a parfois un peu effectivement de mauvaise foi, un peu plaqué. Là, je pense notamment au texte sur les Capucins, mais au final, voilà, un livre que je recommande vivement. Donc on va peut-être faire une première pause musicale et puis on rentrera peut-être un peu dans. On donnera quelques coups de sonde un peu plus précis dans la suite de l'émission.
Yeah.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Ce soir, José est déchaîné en régie. Et donc, il nous a fait une petite blague. Habituellement, il nous prévient 10 secondes avant qu'on puisse, comment dire, se préparer psychologiquement, thématiquement, et savoir un petit peu de quoi on va parler, parce que nous, on est extrêmement organisés et on prépare tout très très longtemps à l'avance. Et donc, là, tout à l'heure, Jean-Mathias donc, nous présentait un livre au sujet d'une ville, Brest, je crois. Et donc, un livre Brest, qui s'intitule Brest, par le collectif Auton, aux éditions Divergence. Donc, il nous a fait une petite présentation sur les différentes thématiques.
Non exhaustive.
Non exhaustive, sur les thématiques abordées, comment dire, dans le livre, de façon un petit peu à balayer les thèmes. Donc, on a bien compris que ce n'était pas forcément un livre de sociologie, ce n'est pas un livre non plus d'urbanisme, non. C'est plutôt une espèce de présentation un peu à ras du sol, par des gens qui découvrent la ville et qui y passent du temps, et qui vont mêler différentes approches, différentes sensibilités, différentes comment dire, formations intellectuelles et peut-être aussi d'histoire personnelle pour aborder cette ville. Et donc, ce n'est pas forcément un livre, en quelque sorte, d'histoire qui va nous présenter la ville de Brest, mais c'est plutôt un livre de Brest au présent. Et alors, donc après cette présentation, tu disais par exemple le quartier des Capucins. Il y avait quelque chose là-dessus.
Oui, bah c'est en fait parce que c'est le passage du livre qui m'a semblé être le plus de mauvaise foi, je dirais. Mais d'ailleurs, il le dit lui-même, il le précise en disant que oui, il exagère. Oui, effectivement, il creuse le trait. Non, mais les Capucins, c'est quoi en fait Bon, pour se représenter un petit peu la géographie brestoise, qui est assez particulière, c'est-à-dire que c'est un port effectivement au fond d'une rade immense, et le port lui-même, en fait, c'est l'estuaire d'une rivière qui s'appelle la Pinfeld, assez escarpé, et qui du coup sépare en quelque sorte l'accès direct à la mer par la Pinfeld de la ville proprement dite. Alors, par le passé, lorsque l'arsenal a été construit, notamment à partir de Louis XIV, hein, en fait, au départ, il y avait effectivement des accès qui étaient prévus avec un espèce de dédale de rue qui descendait finalement du plateau où était l'essentiel des constructions, avec un fort qui fermait l'estuaire, là, et puis il y avait des accès effectivement plus ou moins direct à la Pinfeld et donc au quai et donc à un paysage et à une réalité de maritime, de port, portuaire.
Bon, et un port
C'est un port militaire, évidemment. Port militaire, hein. Alors, à la reconstruction, en fait, ça a été terminé. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les rives de la Pinfeld, les deux rives, ont été entièrement coupées en fait, du reste de la ville, hein, avec des clôtures, voilà, des barbelés au-dessus, etc. Donc, il y a une espèce de zone comme ça gigantesque, une espèce de saignée au milieu de la ville, entre les deux rives en fait, de la Pinfeld. À côté, la rive avec le centre administratif, commercial. De l'autre côté, le quartier historique de Recouvrance, qui a longtemps été voilà, le quartier des marins, notamment, mais qui ces deux, les deux moitiés situées de la ville se sont trouvées comme ça, coupées en deux par... On passe au-dessus, en fait, de la Pinfeld par des ponts. Et en fait, du coup, le point important, c'est cette espèce de coupure-là. Et ta question, c'était quoi déjà, redis-moi?
J'y ai pas vraiment de question, parce que tu avais mentionné le point sur les Capucins. Et tu disais que c'était un passage du livre qui t'avait marqué.
Et alors, les Capucins, c'est quoi? C'est en fait, c'est un bâtiment ancien, en fait, qui lui est un peu surélevé par rapport à la Pinfeld, et qui pendant très longtemps a été, en fait, une zone industrielle énorme. C'est un énorme bâtiment avec des volumes gigantesques, dans lequel on fabriquait les bateaux de guerre français. Immense salle des machines, un énorme bâtiment. Et en fait, ce que raconte aussi le livre, c'est-à-dire avec la fermeture progressive en fait de l'arsenal, hein, qui a liquidé plus des trois quarts en fait de ses personnels. Faut voir ce que l'arsenal a été, hein. C'était une espèce d'usine géante d'armement qui mobilisait en fait, qui était le cœur battant de la ville, quoi, hein, avec des milliers d'ouvriers en plus des militaires, et qui donnait en fait cette identité assez particulière à Brest, qui est en fait une ville d'État, une ville française en fait en Bretagne, mais depuis la monarchie. Et en fait, la liquidation.
L'État, c'est-à-dire une ville où c'est finalement l'État le premier employeur.
État premier employeur, c'est l'État qui, en fait, qui commande le tracé administratif des quartiers, qui commande l'activité économique, qui commande, les fabrications. C'est vraiment une, comme les villes d'Arsenault. Ouais. Il y a la même chose à Cherbourg, la même chose à Toulon, mais à Brest peut-être encore plus particulièrement, parce qu'on est vraiment excentré par rapport à la capitale et dans une région bretonne qui a, une culture, une identité assez marquée. Mais Brest est un peu une exception par rapport à la région de ce point de vue-là. Avec la liquidation de l'arsenal, en fait, donc c'est toute l'identité de la ville qui change. Hein. Donc une identité qui était essentiellement ouvrier d'État, beaucoup, alors qu'elle joue un très grand rôle, évidemment, dans l'industrie militaire, mais aussi dans l'industrie militaire coloniale, parce qu'il y a beaucoup des ouvriers de l'arsenal de Brest qui ont été envoyés dans les colonies. Mon grand-père, au premier chef, qui a effectivement parcouru un certain nombre de chantiers navals de la défense à ce titre-là. Et donc en liquidant l'arsenal, donc c'est à la fois un changement profond dans l'identité et la culture ouvrière de la ville. Et aussi un changement, je dirais, urbanistique, parce que t'as des tas de zones, en fait, de l'arsenal, qui se retrouvent désaffectées, dont ce bâtiment des Capucins, ce fameux bâtiment-là, qui est un petit peu, qui a fait l'objet, en fait, d'un projet de réhabilitation assez poussé, avec un concours, des grandes agences prestigieuses d'architectes pour en faire quelque chose.
Ça, tu dis, c'est quand? C'est juste après la guerre ou c'est,
Non, c'est récent. La liquidation de l'arsenal, en gros, c'est à la fin des années, c'est dans le milieu des années 80, ça commence dans le milieu des années 80. Et ça va effectivement, alors, avec un changement aussi dans la doctrine militaire française, avec un accent qui est mis sur la dissuasion nucléaire. Et en fait, les sous-marins nucléaires français sont toujours effectivement stationnés à Brest, mais pas dans l'arsenal historique. Ils sont en fait en face de l'autre côté de la rade, sur l'île Longue. Donc il y a eu un déplacement. Alors là, il y a toujours un centre très actif, mais qui n'a pas la taille ni les dimensions qu'a pu avoir l'arsenal dans Brest même. Et du coup, toute cette zone en fait de l'arsenal, notamment le plateau des Capucins là qui est en surplomb, a fait l'objet donc d'un projet de réhabilitation assez réussi, me semble-t-il. Et mais évidemment, qui a toutes les caractéristiques du projet de réhabilitation urbain contemporain, donc à la fois culturel, commercial, lieu de vie, lieu de rencontre, etc. Ouais. Bon. Après, ce qui est pas un détail, c'est qu'en fait, Brest est une ville relativement pluvieuse, même si il fait beau plusieurs fois par jour. Et en fait, on a l'idée, ça a été d'utiliser cette espèce de gigantesque volume là de salle des machines qui fait, plusieurs centaines de mètres de long, sur je sais pas combien de large, mais enfin c'est vraiment un volume gigantesque avec peut-être 20 ou 25 mètres sous plafond au minimum, et d'utiliser ça comme une espèce de gigantesque place publique en fait. Et alors autour de ça, il y a effectivement un certain nombre de commerces, et puis cette gigantesque médiathèque. Et donc ça a un côté effectivement place publique, c'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui s'y retrouvent, des grands-parents avec leurs enfants, les gens qui font du roller, de la trottinette, qui écoutent de la musique, qui dansent, etc. Et effectivement qui consomment aussi autour. Moi, j'ai pas été frappé, quand on connaît Forum des Halles à Paris, on n'est pas sur les mêmes registres. Bon, mais il y a effectivement ce côté immersif, expérimental, rénovation urbaine, etc. Bon, alors après, très souvent, en fait, ce type de projet-là, on insiste un peu là-dessus, mais ce type de projet-là, il sert en fait de locomotive pour faire monter le prix de l'immobilier, en fait, autour.
Et justement, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Brest, ça reste une ville très ouvrière ou
Alors, beaucoup moins. C'était que ça fait déjà une vingtaine d'années qu'il y a une espèce de conversion qui est d'ailleurs portée par la mairie socialiste depuis longtemps. Il faut en faire quelque chose en même temps de cette ville-là. Donc, il va plutôt vers une tertiarisation, plutôt vers en fait aussi une ouverture. Avec un accueil de plusieurs universités, donc il y a une identité universitaire en fait qui est assez récente. Et puis il y a un certain nombre de services, qui peuvent avoir un lien ou qui ont pu avoir un lien avec l'industrie militaire, mais qui en fait ont été privatisés depuis. Donc en fait il y a des tentatives pour essayer de muter ça un peu. C'est un peu aussi un coup de sonde dans l'histoire des industries d'État à la française, je dirais, et des ressources. Limites, échecs de reconversion qu'on peut être essayé de ce côté-là. Donc évidemment, il y a une vraie rupture. Pour les gens qui connaissent Brest, ou qui ont vécu dans les 60, 50, même 80, effectivement, il y a un changement dans l'identité, dans le type de population. Bon, avec en même temps, si tu veux, une espèce de contrainte géographique hyper forte, hein, qui est cette espèce d'enclave qui reste quand même présente. Hein. Alors, pour le détail, c'est une blague, mais bon, Brestois connaissent tout ça, alors il en parle aussi. En fait, pour relier ce plateau des Capucins depuis la rive du centre-ville, en fait, ils ont créé un téléphérique, un peu à la barcelonaise, donc qui passe en fait au-dessus de l'arsenal militaire. Et en fait, un téléphérique vitré, donc magnifique, hein, t'as une vue effectivement sur tout le site de l'arsenal, etc. Mais il y avait un problème en fait, un détail qui te symbolise l'emprise encore en fait de l'emprise militaire sur la ville, c'est qu'en fait, au départ du téléphérique, en fait, tu passes au-dessus en fait du jardin de la résidence de l'ancien amiral qui en fait dirige l'arsenal. Et en fait, l'amiral a exigé en fait que sur une partie en fait du téléphérique vitré et panoramique soit opacifié pour qu'on ne puisse pas avoir de vue directe sur effectivement son jardin. Donc tu as une espèce de cage de verre qui comme ça voilà, il y a des dizaines de mètres de hauteur et qui relie en fait la ville au plateau, mais il y a une partie qui est occultée parce que en fait
il y a l'amiral en dessous.
Et il y a l'amiral qui est en dessous. Voilà, il y a l'amiral qui prend son petit déjeuner en terrasse quand il pleut pas.
plusieurs fois par jour.
Alors il en parle de ça évidemment, mais c'est la blague voilà. Local de tout le monde. Mais en fait, effectivement, bon, c'est à des signes effectivement de ce type-là que effectivement, tu repères aussi un peu l'identité de la ville là-dessus. Mais le livre va beaucoup plus loin que ça parce qu'il donne la parole aussi. Il y a une maison du peuple, il y a une tradition syndicaliste très forte aussi à Brest, à la fois du côté de l'arsenal et en même temps du côté du port de commerce. Il y a aussi un port de commerce assez important.
Donc avec des docks.
Avec des docks, ouais. Il y a une interview, un entretien avec des dockers, justement, aussi. Il donne la parole aussi, intéressant, à une responsable, en fait, des inspections, une espèce d'inspectrice du travail, en fait, hein, mais qui intervient sur, en fait, les bateaux pétroliers, les portes-containers, en fait, qui déchargent sur Brest et qui explique, en fait, l'espèce de monde, enfin, comment elle vit de la mer avec une petite cuillère, parce qu'en fait, elle a affaire à des espèces de cascades de contrats d'armateurs et de contrats d'embauche divers, et elle est à peu près seule, en fait, pour contrôler, en fait, l'ensemble du port, voire même de la région Bretagne, si je me souviens bien. Enfin, mais intéressant aussi, effectivement, de ce point de vue-là. Et du point de vue historique, en fait, les traditions syndicales très fortes, à la fois à l'arsenal et sur le port de commerce, sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on a une culture, en fait, de syndicalisme. Alors, je vais pas dire de syndicalisme d'État, mais en fait, on est dans une culture syndicale plus fonction publique, je dirais, en fait, hein, du point de vue même si c'est ouvrier, en fait, hein, c'est des ouvriers de l'arsenal. Alors qu'il y a eu, en fait, une tradition plus anarcho-syndicaliste chez les dockers, notamment, du port de commerce. Mais avec des épisodes, bon, alors qui sont rappelés là-dedans, mais voilà, avec des notamment au moment de la Première Guerre mondiale, on a des bateaux militaires en fait qui étaient engagés en mer Noire, qui effectivement avec des marins communistes beaucoup, donc qui étaient plutôt effectivement communistes ou socialistes, des marins de l'arsenal. Qui sont trouvés pris, embarqués dans la Révolution russe à partir de 17, qui reviennent avec cette expérience-là à Brest, en fait, avec des points de mutinerie assez tangents, on va dire. Donc il y a tout cet historique-là aussi. Et le livre raconte ça aussi, effectivement. Il y a des passages là-dessus. Mais donc ça donne effectivement voilà cette vue un peu générale, mais avec cette grande qualité, c'est que du coup en fait t'as aussi toute une... C'est pas vraiment une galerie de portraits, mais c'est une galerie de témoins, on va dire, hein, de témoins de la ville, sur plein d'aspects différents. Alors, peut-être citer un des passages, peut-être. Alors, c'est notamment sur le quand il va à la rencontre là d'anciens syndicalistes à la Maison du Peuple là. Alors, donc je ne sais pas effectivement qui du collectif se donne ce chapitre-là. Mais en fait, c'est intéressant aussi, parce que c'est une particularité aussi de la culture brestoise, c'est qu'en fait, il y a toute une langue, toute une série d'idiomes, en fait, qui sont propres à la culture de l'arsenal. Hein, et donc, il a eu vent, visiblement, de cela. Il essaie de...
L'espèce d'argot local.
Oui, l'espèce d'argot local de ce type-là. Alors, bon, il raconte, donc, du coup, voilà. Donc, les pages 75, là, par exemple. Mon intention est d'interroger Bruno et Louis sur le parler de l'arsenal, l'arsouille, hein, c'est le nom qu'on lui donne, le dialecte local et ouvrier.
L'arsouille.
Ouais. Inventé dans les ateliers et transmis aux apprentis, une langue virile, populaire, aquatique et imagée, avec ses lourdeurs et ses coups de génie. Mais Bruno et Louis n'ont pas tellement envie d'y revenir, plutôt étonnés que ça m'intéresse, que je cherche à saisir l'histoire des chantiers navals par ce biais lexical, une marotte d'écrivains, d'écrivains bourgeois, c'est sans doute ce qu'ils pensent à demi-mot. Alors j'espérais naïvement que ces deux Brestois, comme ils disent, se soucieraient que ça n'aille pas perdre cette langue, mais non. Ils n'ont pas envie de... Alors ça c'est des expressions effectivement tirées de l'arceau. Ils n'ont pas envie de compter la couille, de bavasser, ni de commenter les merveilleuses trouvailles de cet idiome qu'ils ont un peu oublié depuis le temps, depuis la retraite. Et par exemple, anthracite, véliplanchiste, expression pourtant réjouissante désignant un jeune cadre dynamique, agité et en costume, de ceux qui venaient parfois traîner dans leurs pattes, voir comment optimiser le travail. Devant mon insistance et leur goût un instant retrouvé pour les jeux de mots foireux, ils m'avouent du bout des lèvres, un peu gêné, que le parc à moules, manière de nommer le bâtiment administratif, majoritairement occupé par des femmes, beaucoup de comptabilité et de secrétariat, les... C'est peut-être Bégodeau en fait qui l'a fait passer.
Ça sent
beaucoup de comptabilité et de secrétariat, les allons t'en fait marrer. C'est pourtant loin d'être l'expression la plus inventive. Mes faveurs iraient davantage à « il y en a dans le fémur », pour y en a là-dedans, mettre la peau sur les yeux, aller dormir, ou il a raidi ses pattes, il est mort, j'ai consulté un esquisse avant notre rencontre. Alors, bon, bien, voilà, ça c'est pour l'aspect pittoresque du truc, mais voilà, sur ce corpolecte, pourtant exclusivement parlé à l'arsenal de Brest, on ne s'attardera pas. À la rigueur sur l'accent brestois, qui avale les P en un débit rapide, inutile d'insister. Passons à autre chose, un récit plus circonstancié et nostalgique, car Bruno et Louis sont retraités de l'arsenal. Étienne, une permanence à la Maison du Peuple, dans le local de la CGT, pour conseiller et accompagner d'autres retraités de la maison. Louis y a travaillé 40 ans, de 55 à 95, Bruno un peu moins, mais leur longue carrière témoigne de l'inégale stabilité de ses emplois, de l'esprit solidaire qui y régnait. Bon, et après, évidemment, ils vont...
Il n'y a qu'une seule Maison du Peuple ou il y en a plusieurs dans différents quartiers?
À ma connaissance, il y en a une.
D'accord.
Une seule. T'en as une seule.
C'est pas des espèces d'antennes locales.
Non, c'est l'équivalent de la bourse. Alors c'est une Maison du Peuple parce qu'il y a une tradition aussi municipaliste forte en fait, hein, comme souvent en Bretagne, avec une mairie alors qui a pas toujours été socialiste. En fait, je crois que les socialistes ont pris la mairie avec Pierre Maille. Ça devait être dans les années 90, au début des années 90. Donc en fait, hein, c'est une ville. Voilà, il y a ces équilibres là du fait en fait de l'état-major aussi militaire à l'arsenal. En fait, il y a une tradition catholique quasi monarchiste, voilà, mais de droite tradie aussi qui est implantée. Et puis la part du catholicisme qui est très forte. Mais avec cette espèce de contrebalancier laïque aussi propre aussi à la culture ouvrière, d'État aussi, en fait, de l'arsenal. Et donc, voilà, mais la ville est socialiste depuis plus de 35 ans, là, maintenant. Hein. Et il y a un côté un peu de passage un peu d'héritier, je dirais, de dauphin, qui est très marqué, en fait, hein, dans le socialisme local, qui est aussi marqué un peu par... catholicisme de gauche et à la fois effectivement cette espèce de culture ouvrière syndicale et militante liée à l'histoire de la ville, quoi. Voilà.
On va faire une petite pause musicale. Tout à l'heure j'avais oublié de le dire, vous avez entendu Syndrome 81, un morceau qui s'intitule Recouvrance, un morceau fait à Brest semble-t-il en 2013, et là vous allez entendre Les Collabos, et donc on se retrouve juste après. Tu n'as pas l'air d'aller, pas de l'âge de ce monde.
beaucoup.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend. Et vous venez d'entendre, donc vous l'avez annoncé, les collabos, un morceau qui s'intitule, dont le vrai titre est Bop Pap la Bidoupe, mais que tout le monde connaisse, ou Jean-Paul II, Jean-Paul II, mais deux, hein, qui est, c'est assez adapté vu qu'il y a, il y a un nouveau pape. Et donc c'était un titre qui à l'origine se trouvait donc sur Krakow en France, et avec tout un tas d'autres groupes de punk des années 80. Et là c'est un live à Brest de 85. Voilà, donc Jean-Mathias, auparavant, donc nous parlait un petit peu de l'arsenal de Brest à partir d'un livre qui a été publié aux éditions Divergentes. Divergence. Donc le livre publié écrit par un collectif, le collectif Othon, O-T-H-O-N, qui donc présente la ville à partir de différents points de vue. Et c'est des gens qui n'habitent pas forcément à Brest, mais qui ont écrit le livre après y avoir passé une semaine chacun, en essayant de sélectionner un petit angle. Et donc là, Jean-Mathias nous parlait tout particulièrement de l'histoire un petit peu de Brest, ville d'État, ville militaire, où en fait, voilà, c'était un port où on construisait énormément pour la marine militaire française. Et donc, bah, évidemment, comme toute une partie de l'héritage industriel français, ça a été démantelé à partir des années 80, c'est ça, 90 ou 2000.
Milieu des années 80.
Voilà, donc c'est une ville qui se gentrifie, qui évolue un petit peu vers le tertiaire, mais qui garde une espèce de couleur un peu quand même particulière liée à cette histoire qui est quand même tout à fait singulière en Bretagne, d'après ce que tu disais, puisque justement c'était une espèce d'enclave, quasiment presque enclave française en Bretagne depuis très longtemps, c'est ça? Alors oui, je sais pas de quoi
enclave d'État. C'est difficile de parler de tout, hein, parce que le livre est très très riche. Donc voilà, il y a même toute une série de portraits, de témoignages différents. Bon, j'ai essayé d'en évoquer un certain nombre. Qu'on peut mettre un petit peu en avant. Il y a d'une part la place Guérin, là, dont je parlais tout à l'heure, donc effectivement une place comme j'aime bien moi, mais qui a aussi en fait cette identité qui est dépositaire de une certaine identité militante qui est un petit peu à part dans la ville, parce que pour le coup, bon, on y trouve un certain nombre de bars, il faut dire le chose, voilà, la librairie dont je parlais, et puis en fait il y a aussi un lieu qui a longtemps été squatté, en fait, qui était directement sur la place et qui faisait office, ben, à la fois je dirais voilà de centre culturel et militant, on va dire, qui servait aussi de point de ralliement à un certain nombre de mobilisations, d'initiatives, plutôt d'inspiration anarchiste, voilà, très 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 axé contre le sécuritaire, la surveillance vidéo, soutien aux migrants, on est plutôt sur ce type de mobilisation là en fait, hein, voilà, avec une proximité aussi avec les universités et les facs qui sont pas très très loin.
Oui, je sais plus si c'est Morane ou José qui souligne en antenne que ça a été une des villes où il n'y a pas eu de
vidéosurveillance. Oui. Bon, c'est lié sans doute effectivement aussi à la tradition socialiste en fait de la mairie, hein, depuis pas mal de temps. Alors bon, bah là c'est terminé, hein, donc il y a désormais sur la place Guérin un mât gigantesque en titane renforcé avec tout en haut effectivement une caméra de vidéosurveillance. Alors bon, qui a été un objet effectivement de haute lutte, hein, de la part du préfet et de la mairie pour essayer de remettre un peu d'ordre sur cette place là. Alors il y a un des textes qui attire un peu à la lecture, hein, c'est un paragraphe qui s'appelle « C'est pas genré une glace », à partir de la page 126. Alors peut-être en lire aussi un petit passage, parce que alors là pour le coup on est plutôt dans l'exercice de style littéraire, hein, qui reprend en fait un texte de Pérec, hein, de 75 qui s'intitule « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien », et où on a Pérec effectivement qui se pose comme ça au café de la mairie sur la place de Saint-Sulpice à Paris, et qui va comme ça lister pendant une heure, deux heures en fait tout ce qu'il observe, tout ce qui se passe, hein, une espèce d'inventaire comme ça en temps réel. Et donc bah là on a une tentative de faire la même chose sur la place Guérin, voilà, donc pour essayer de décrire donc ce lieu là alors on est plutôt sur un temps calme, hein, dans l'après-midi, Mais évidemment, dans un temps calme, il se passe tout un tas de choses. Hein, il se passe tout un tas de choses. Donc, bah, l'auteur, effectivement, le dit. Hein, donc, les Brestois, il justifie d'abord le choix. Voilà, les Brestois rencontrés parlent tous de la place Guérin et des Guérinois, sa culture anard, ses manifs, sa vie associative, le squat de l'avenir, dont je parlais à l'instant, qui a été démantelé, le mélange social, l'autogestion, les bars, le bastion de l'extrême gauche à Brest, hein, selon la presse locale, qui rapporte la vandalisation du système de vidéosurveillance dans la nuit du 23 au 24 mars 2024. Évidemment, il y a des vandalisations successives. Quelques jours après son installation, la vandalisation ayant consisté à peindre en blanc son gros œil noir à aveugler le cyclope hostile. 27 avril 2024, midi, beau temps. J'ai rendez-vous avec Bruno et Louis, hein, dont on parlait tout à l'heure, les syndicalistes à la Maison du Peuple, pour évoquer leurs années à l'Arsenal. Mais très en avant, je décide de me poser, place Guérin, pour commencer à tenter d'épuiser. J'ai prévu d'y revenir plus longuement en juillet. Une place carrée, piétonne, cernée de petits immeubles, bas de trois étages, au volet bleu ou blanc, aux façades crépies, pâles ou sales. Un panneau d'affichage officiel est couvert de tracts et d'affiches sauvages. Je lis « Qui veut la peau de la place Guérin ?» Destruction de la salle du quartier, fichage politique, logiciel de surveillance illégale, arrestation arbitraire, harcèlement des débits de boissons, disparition des services publics, déploiement policier hors normes, suppression des subventions aux associations, gentrification à marche forcée. Je pivote. Une façade aveugle peinte d'un immense visage masqué, je pense au mur de Derry en Irlande du Nord où sont représentés les visages des victimes du Bloody Sunday. Le slogan sur le mur « Vive la commune de Guérin ». Puis, ce qui me frappe, le nombre important de bars et cafés, dont le café de la plage, les pissenlits par la racine, le café PMU, le Royal, Triskel et Billon, et aussi deux bouquinistes, une minuscule brocante, un luthier fermé, un cabinet d'ostéopathe. Sur le terre-plein central, on joue aux boules en buvant des bières. Je m'installe à la terrasse du Triskel et Billon sur la façade, duquel sont inscrits « Buvette » et « Le Rad ». Un renard empaillé, juché sur une branche et tenant dans son bec un camembert. Le rustique accueille les consommateurs. Des tonneaux font office de table. Il y a du monde. Je me dis des trognes, visages abîmés, rides, creusés au couteau, cheveux longs, gris pailleux qui disent bonjour et percés, pantalons élimés. Je me dis anard. Justement, un jeune garçon avec le A d'anarchie peint en rouge sur des converses noires, des filles tatouées, des visages burinés. Je me dis... par les éléments. Certains sortent les vinyles qu'ils viennent d'acheter. Je compte autant de femmes que d'hommes, tous à la bière, déshabitués. Beaucoup de mégots de clopes roulés dans les cendriers, beaucoup de bises échangées. Une femme, cheveux courts, la soixantaine, tout en noir. Des mitaines aussi, tire sur sa roulée éteinte, badge au revers et Doc Martens rouge. Un jeune couple en voiture s'arrête en bordure de la place, en descend un chien. Il dépose des cageots de légumes sur un muret. Des glaneurs aussitôt se présentent, je ne les ai pas vus arriver. Une vieille femme avec un caddie choisit des navets, des oignons, des panais, puis une autre et une autre. Ça discute qualité des produits, ce qu'on pourrait en faire. Un noir fait la manche et on lui donne. J'entre dans le bar pour commander un deuxième café. Une ardoise donne la liste des boissons, en russe. Un serbe m'apprend le patron, jovial et rond, barbe et sourcils roux, dents gâtées. Vous êtes serbe ? Non, mais j'y ai vécu, j'étais musicien là-bas, je tournais avec des groupes tziganes. Il me parle en serbe d'un ton goguenard, s'excuse de son humour lourd en français, ajoute « excusez-moi pour les choses transversales », m'appelle madame. Sentiment d'être accueilli, mais de faire tâche. Je retourne en terrasse avec mon café à 1 €, le patron me suit, s'excuse de nouveau, de quoi ? Mais je n'ai pas de réponse. Il rejoint un groupe de femmes âgées qui l'enlacent, le câline, dont une qui ressemble à Brigitte Fontaine, chanteuse native de Morlaix, à 45 minutes d'ici. Je quitte le Triskel Billon, traverse la place, des garçons noirs arabes occupent deux bancs. Munis d'une enseigne pleine de rap, je fais le tour, les bars, la médiathèque, la petite aire de jeu pour les enfants. Un restaurant, l'atelier gourmand et un caviste qui me semble dépareillé, trop chic. Dans la vitrine d'un café, des affichettes pendues à un fil à linge pour un rassemblement anti-répression le 9 mai. Pour une journée d'information, contraception testiculaire et responsabilité masculine. Pour un concert de métal, une expo photo, un atelier de réparation de vélo. En face, la permanence de l'UDB, Union démocratique bretonne, façade bleue délavée, local fermé, drapeau breton. En vitrine, des affiches UDB, la gauche autonomiste, la Bretagne au cœur et le cœur à gauche, Bretagne réunifiée égale développement économique, l'autonomie pour changer la vie. Puis, chez le bouquiniste renfrogné, j'achète 2 calafertes, Memento Mori et partage des vivants pour quelques euros. Je dois maintenant rejoindre Louis et Bruno, etc., etc., etc. Donc là, on a effectivement une espèce comme ça de caméra panoramique là sur cette place-là. Donc il y a effectivement un des lieux, un des lieux emblématiques de Brest. Il y a tout un chapitre aussi sur le stade brestois, en fait, qui est le club de foot historique de la ville, dans un stade qui lui aussi est historique, c'est-à-dire qu'il est en centre-ville.
Ah oui, voilà.
C'est un stade à l'anglaise, avec un accès direct des gradins sur la pelouse. Et ça, évidemment, Brest a été, pendant des années, voire des décennies, alors le club de la ville, certes, mais un club de la ville relégué soit en D2, soit... tout en voire en Détroit, voire plus bas, voilà, longtemps à se battre pour se maintenir en D1. Et il se trouve, ben là, ils font un parcours, voilà, que Michel, tu suis, toi, du coup, Stade Brestois, puisqu'ils sont, aux portes de l'Europe, hein, comme on dit. Ils ont un peu claqué la porte au nez. Mais on apprend aussi tout un tas de choses, effectivement, sur ce stade, sur ce club, repris par deux frères entrepreneurs locaux et qui ont évidemment comme projet en fait, de déplacer ce stade qui est en centre-ville avec son bar qui s'appelle le Penalty à la sortie et qui est évidemment le bar de supporters historique du stade Le Blé. Et le projet, c'est de construire un beau stade avec un centre commercial en fait en dehors de la ville, évidemment. Ce qui permettra aussi évidemment de revoir la politique des abonnements et d'adhésion aux différents clubs de supporters de la ville et puis aux abonnements pour suivre les matchs. Et donc là, on a aussi effectivement comme ça, à partir de certains lieux qui sont des lieux de vie, hein, je dirais, de la ville, des coups de sonde sur les mutations, voilà, les dynamiques qui sont à l'œuvre et comment effectivement l'expérience d'une ville et puis en fait les lieux où les gens peuvent se rencontrer aussi, sont travaillés comme ça de manière un peu souterraine, mais assez rapidement finalement, par des dynamiques qu'on observe pas simplement à Brest bien sûr, mais qui prennent du coup effectivement leur sens un peu particulier là-dessus. Alors il y aura encore évidemment beaucoup d'autres choses à dire. En tout cas, bon, c'est un livre dont je recommande la lecture pour ceux qui connaissent Brest bien sûr, mais surtout pour ceux qui connaissent pas, comme Michel. Et parce que aussi bien sur le fond mais sur sa forme, c'est une vraie réussite, je trouve. Donc ce livre qui s'appelle À Brest, hein, du collectif Auton, aux éditions Divergence. Alors ça vient de sortir, hein, c'est sorti en début d'année là, en février dernier. Donc vive recommandation pour
voilà, donc vous retrouverez cette émission et toutes les autres sur le site Gurdulu, Archive, Jeudi Noir, et on se quitte avec le groupe Chafouin en rade.
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Les gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
Bienvenue dans l'émission Musique en lutte. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité. Aujourd'hui, nous recevons le producteur, DJ, sélecteur, organisateur, compositeur de reggae, dub, jungle et drum and bass, Cracking Dub. Merci à toi d'être là ce soir. Peux-tu te présenter ?
Bonsoir. Je m'appelle Federico Trujillo. Je suis un réfugié argentin de la dictature des années 70. Enfant, on a dû fuir notre doux pays pour donc des raisons politiques le fruit des hasards, après un passage au Brésil avec mes parents, ils ont décidé de venir en France. Donc c'est là où j'ai grandi, où j'ai été éduqué, où j'ai suivi l'école et où aussi j'ai appris à faire de la musique, hein, avec mon père en grande partie, qui était facteur de percussion à ses heures perdues, on va dire. Donc on avait un atelier de percus à la maison, j'ai toujours tapé sur des batteries, je suis un peu né sur une batterie.
T'avais quel âge quand t'es arrivé en France ?
Je suis arrivé à l'âge de 4 ans.
D'accord.
2 ans en Argentine, 2 ans au Brésil. Donc je suis arrivé, oui, c'est un de mes premiers souvenirs de ma vie, hein, mon arrivée en maternelle où la maîtresse demande à ce qu'on se présente et moi j'ai parlé portugais, espagnol et français dans la même phrase. On m'a regardé un peu comme un alien, voilà, un étranger. C'est un de mes premiers souvenirs. Mais bon, ça veut pas dire que j'ai pas été bien reçu, hein, bien au contraire. À la maison, c'était ça. Donc mon père était médecin ethnologue, ma mère anthropologue, mais ils étaient aussi musiciens et elle danseuse. Et donc, à la maison, il y avait beaucoup de vinyles, beaucoup de musique tout le temps, beaucoup d'amis, beaucoup de fêtes. Donc j'ai appris la percussion en premier. J'ai fait un peu de percussion classique au conservatoire de Joinville, sur Lille. Où j'ai fait mon premier concert. Je jouais le triangle.
C'est dur apparemment le
sur,
triangle.
Dodo l'enfant do. Ouais. Le triangle, il faut commencer quelque part. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, les années passant, premier Walkman, premiers amours musicales un peu plus éloignées des goûts parentaux qui étaient très chez moi, c'était jazz. Musique brésilienne, bien sûr tango et compagnie. Et moi, je suis tombé là, donc à mes 13 ans, 12 ans, dans le hip-hop, la tête la première, hein, très fort dans le hip-hop. J'ai beaucoup aimé ça. Jusqu'à ma révélation hip-hop et musique électronique en même temps, qui a été It Takes a Nation Millions to Hold Us Back de Public Enemy, qui est resté dans mon Walkman en auto-reverse pendant. Je sais pas, un an et demi, je crois, un truc comme ça. J'étais en boucle.
Et quand tu parlais de hip-hop, du coup, c'était du hip-hop américain, français, anglais
Surtout américain et français, hein, on va dire, parce que à l'époque, le hip-hop anglais, c'était pas vraiment, il arrivait pas trop jusqu'à nous. Mais par contre, comme je te dis, Public Enemy, De La Soul, c'est vraiment les deux premiers noms qui me viennent en tête, EPMD et d'autres, hein, qui par la suite. Mais vraiment, c'est de là pour commencer. Et puis en France, il y avait les émissions de Dynasty sur Nova, qu'on enregistrait, et de Clyde aussi, DJ Clyde, qu'on enregistrait de façon presque religieuse. On attendait le début du truc. Et là,